crois profondément que la culture peut aider à sauver le monde, la beauté peut aider à sauver le monde. Donc participer à cela à travers notre activité me paraît fondamental. Oui, moi je me sens profondément engagée et militante. La culture, c'est ce qui nous fonde, mais c'est ce qui aussi peut séparer. Il y a quand même toute une partie de la population qui n'a pas accès pour toutes sortes de raisons ou qui dit
« Le grand atelier,
la culture, c'est pas pour moi, c'est pour les autres »
sur France Inter.
C'est une Belge qui s'est épanouie à Arles, une scientifique biologiste que la littérature et l'édition ont rattrapée, une militante de la culture que la politique a embarquée.
Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture.
Puis, après 17 mois, que la politique a remercié.
Je suis arrivée ici en militante de la culture et j'en sors telle que je suis entrée, avec la même détermination, avec les mêmes convictions et avec une énergie décuplée.
8 mois plus tard, que garde-t-elle de cette expérience et de cette exposition, elle qui se dit timide et réservée? L'ex-ministre a-t-elle bien travaillé? Était-elle à sa place au milieu des narques? Comment a-t-elle vécu les critiques? Vous trouverez des éléments de réponse, ou plutôt sa vérité, dans un livre qu'elle publie chez Stock, Plaisir et nécessité. La vie continue, les livres sont toujours là, il faut les aider à naître, les faire grandir. Ils l'ont aidé, les livres, quand elle s'ennuyait, adolescente en Belgique, et elle leur consacre sa vie dans la maison fondée par son père, les éditions Actes Sud. Bonjour Françoise Nyssen.
Bonjour Vincent.
Comment allez-vous?
Mais très bien, je suis d'abord très heureuse de vous retrouver.
C'est gentil.
La vraie vie.
C'est la vraie vie? C'était pas la vraie vie, le ministère?
C'était une autre vie, c'était une vie au service que j'ai aimée. Et on peut revenir là-dessus, dans lequel je me suis plongée avec détermination. Mais là, je suis avec vous, je suis avec des gens que j'aime, et j'accompagne et je fais des choses qui m'habitent et auxquelles je crois profondément.
Il y a une phrase qui m'a marquée dans ce livre, il y en a plusieurs, mais notamment celle-là. Mon expérience au ministère, 17 mois donc, m'a radicalement transformée.
Effectivement, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Et l'idée de ce livre n'est pas du tout l'idée de faire une espèce de règlement de compte, ça ne m'intéresse d'ailleurs absolument pas, c'est de dire avec joie et conviction ce que j'ai fait, les graines que j'ai semées, et d'ailleurs j'espère qu'elles continueront à être arrosées et que le sillon va produire, parce que j'ai fait des choses avec vraiment des convictions que je porte et que je vais partager avec des amis qui sont ici présents et qui m'ont inspirée, parce que je me suis toujours inspirée de ce que je rencontre et de ce que j'observe et de ce que je fais. On pourra revenir sur cette notion tellement importante des boucles de rétroaction positive. C'est aussi en faisant qu'on apprend et qu'on s'enrichit. Et donc forcément, au contact des gens que j'ai découverts, je ne connaissais pas les organisations d'un gouvernement, l'État tel qu'il est en France, avec des gens très engagés, très portés. Avec toutes ces lourdeurs aussi.
Mais vous
et
en
ça
parlez
m'a, de. Ça m'a énormément appris, oui.
De cette arrivée dans un ministère où vous n'avez pas été préparé et vous déplorez le fait que les ministres venus de la société civile ne soient pas aidés. Il faudrait presque un stage, dites-vous, pour nous faire connaître les institutions, le cabinet, les rouages, ces fameux énarques qui n'étaient pas toujours des amis avec vous.
Oh, c'est pas tellement. Les énarques ne sont pas des amis parce que j'ai une directrice de cabinet qui est une énarque formidable. J'ai eu des conseillers, des conseillères absolument formidables, engagés. Ce sont des gens qui sont très, 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 très engagés.
De Macron, mais... du président Macron que vous aimez toujours autant, visiblement, à vous lire, vous dites quand même qu'il est trop entouré d'énarques.
Ah, il est entouré de gens qui ne font pas. Ça, c'est d'une certaine façon, qui ne font pas advenir les choses. Parce que ce qui est important, c'est aussi de quand. On est en situation de gouverner, de décider, il faut s'entourer de différents de soi. Si on est uniquement dans un cercle de gens qui vous disent la même chose, on n'avance pas, on ne progresse pas. D'ailleurs, moi, d'une certaine façon, si je vous dis que je suis transformée, parce que j'ai passé 17 mois entourée de gens qui ne me ressemblaient absolument pas.
Parachuter dans un monde très codifié, on a besoin de connaître ses codes pour savoir comment avancer malgré eux. Elle est forte, cette phrase, elle dit beaucoup de choses, même en creux.
Même si l'idée n'est pas de les intégrer, je pense que c'est important de rester toujours cohérente avec soi-même. Si je devais réfléchir à une réfléchir
une chronique de François Morel sur Inter.
Madame Nissen a été très claire. Elle a dit qu'il fallait réfléchir, que ces sujets étaient en réflexion, mais je ne voudrais pas trahir la pensée pointue de Madame Nissen et je vous propose d'écouter les principaux points forts de cette interview.
Il faudra réfléchir. On réfléchit, il faudra réfléchir. L'idée, c'est de d'imaginer. On peut réfléchir. Tout ça est à mettre en place et en réflexion. Les Français le savent, c'est qu'on réfléchit à réfléchir.
Merci Françoise Nissen.
Je revendique le droit de réfléchir. Et j'ai mis en exergue de mon bouquin cette phrase d'Aristote que j'ai trouvée. J'ai évidemment pas résisté à la mettre, qui dit que l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Alors je ne sais plus ce que j'allais vous dire, parce que j'étais portée par ça. Oui, les codes, il ne faut pas pourtant les intégrer, mais il faut les connaître. Et c'est vrai que de là où je viens, de ce que j'ai fait, même de mes études et des gens que je connaissais, je n'étais pas du tout préparée et je ne connaissais pas du tout ce qui se passait là. Et j'ai découvert, je tiens à le dire, des gens incroyablement engagés et qui ont ce souhait, sans doute, de faire des choses. Mais bon, toutes les conditions ne sont peut-être pas tout à fait remplies.
Vous avez découvert aussi un petit milieu, c'est un entre-soi, le ministère de la Culture. Il y a des codes, vous le disiez, il y a un narcissisme. Est-ce que le ministère de la Culture, c'est pas plutôt le ministère des gens de culture ?
Bon, effectivement, il y a beaucoup de personnalités différentes, il y a beaucoup de strates différentes, il y a beaucoup de sujets différents. Mais c'est en même temps ça qui est merveilleux, puisque la culture fondant le tout, nous naissons, comme dit Nancy Houston dans l'espèce fabulatrice, nous sommes culture, donc c'est un ministère essentiel et il devrait d'une certaine façon être transverse avec tous les autres. Et d'ailleurs, d'une manière générale, j'en ressors avec l'idée que s'il y a bien un ministère qui est en silo et en millefeuille, c'est bien celui-là. Et ça, c'est totalement dommageable. Il faut ouvrir et permettre aux gens de se nourrir des autres et apprendre des autres en permanence. Mais je suis arrivée aussi avec cette chose que je n'avais pas autant perçue, même en étant à Arles et en étant dans une vie culturelle sur un territoire, c'est à quel point la culture peut être un facteur de ségrégation sociale et à quel point il est urgent de travailler sur cet accès à la culture. Et ça a été mon obsession pendant ces 17 mois.
Ça n'est pas l'obsession d'Édouard Philippe. Vous en parlez du Premier ministre. Autant vous êtes toujours, allez, je vais oser l'adjectif amoureuse d'Emmanuel Macron.
Mais non.
Mais si, vous lui faites quasiment aucun reproche. Peut-être d'être un peu trop loin des artistes et de ne pas venir, entre autres, au Festival d'Avignon.
De ne pas s'entourer assez de différents de lui. Il faut qu'il soit confronté aux différents de lui. Il faut qu'il entende et qu'il rencontre des gens qui font.
Mais Édouard Philippe, lui, je pense qu'il sera intéressé par ce livre, parce que vous lui donnez des conseils, vous ne faites pas tellement de reproches. Vous dites que vous devriez davantage vous préoccuper des sujets justement d'un ministre de la Culture, et vous sentez que à Matignon, ça n'est pas une priorité.
Ah non, c'est pas du tout, et j'ai découvert à la fois cette non-priorité, cette nécessité de délivrer des choses tangibles et... Enfin, maintenant, ils sont un peu obligés de revenir là-dessus, parce que paradoxalement, tout ce que je préconisais et tout ce sur quoi je me battais, c'est ce qui est apparu ces derniers mois et qui nécessite plus que jamais de ne pas imaginer les choses d'en haut, mais de repartir de là où les choses se font. Et ça, c'est un peu le fil du livre que
Matignon,
j'ai essayé de transmettre.
Matignon déconnecté.
Oui, complètement déconnecté d'une certaine façon, vraiment polarisé sur des sujets et pas du tout porté par cette problématique de l'accès à la culture à cette époque-là. Mais les gens peuvent changer.
Vous êtes toujours optimiste.
Écoutez, le pessimisme de la lucidité nous oblige à l'optimisme de la détermination, disait Gramsci.
Plaisir et nécessité chez Stock vous raconte votre action au ministère, mais parle aussi de ce en quoi vous croyez. Je pense à la culture, bien sûr, mais il y a aussi l'écologie, il y a le collectif. Vous aimez rassembler des gens autour de vous, vous aimez réfléchir ensemble. Et puis on parle aussi, dans ce livre, de votre famille, de vos origines, de vos grands-parents, de celles et ceux qui vous ont donné le goût de la culture et de la musique, entre autres. Et puis il y a la famille, il y a votre père, Hubert Nissen, il y a vos enfants. Et puis il y a Antoine, qui a mis fin à ses jours, et vous écrivez sur lui, vous en parlez d'ailleurs aussi assez volontiers et fréquemment. C'est votre fils qui vous a donné beaucoup d'énergie dans la vie, et même après son départ, vous vous souvenez du goût du bonheur qu'il avait.
Oui, parce que c'était fait partie de ces êtres qui nous disent le monde par leur vision et leur façon d'appréhender les choses. Et si aujourd'hui on a créé avec Patrick Bouchain et avec d'ailleurs aussi Jeanne Benhamer
qui sont ici présents, architectes et écrivaines.
Une école, c'est effectivement en pensant à Antoine, et ça faisait longtemps qu'on réfléchissait même avec lui à l'idée d'une école, mais il était évident qu'il fallait aller vers ce champ-là. Mais ce champ-là, qui est un champ qui en ouvre un autre, qui est celui de l'agroécologie, et tout est lié. Et je pense que si je pouvais... Aujourd'hui, délivrer un message, c'est celui de la nécessité du lien. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit être dans cette société.
Avec lui, il paraît que vous droguiez à David Bowie.
Oui. on voyageait beaucoup parce que c'était un jeune qui avait besoin de ces nourritures que sont l'art, la culture, les autres. Il avait un rapport aux autres exceptionnel, une attention à l'architecture, à la beauté d'une manière générale. Et on faisait des grands voyages et on mettait David Bowie à tue-tête.
It's true. They got a message for the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of trap girls and synthesis. And I ain't got no money. To kick but the planet is glowing. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting a all-time low. Time and again I tell myself
j'entends que tout ce que les gens qui parlent toujours de la situation qui est grave, elle l'est, du chômage, des projets, on parle rarement de la culture. Et je crois que dans les moments, particulièrement les moments difficiles, la culture fait partie de ce qui aide à vivre. Ça ne remplace pas un bon boulot, ça ne remplace pas un appartement quand on n'en a pas, ça ne va pas résoudre tous les gens qui dorment dans la rue. N'empêche que la vision des choses, de la musique, des choses de l'art, de la peinture, des installations, le théâtre, la danse, ça aide les gens à être un petit peu énergisés par autre chose que la conjoncture, comme on dit, qui est une horreur.
S'il est quelqu'un qui parlait bien facilement, modestement de la culture et de façon accessible, c'était elle, Agnès Varda. Vous l'avez reconnue tout de suite à sa voix, vous avez dit Agnès, Françoise Nyssen. Qu'est-ce qu'elle dit de juste ?
Ça, tout ce qu'elle dit est,
tout ce qu'elle dit est juste.
Et c'est vrai qu'elle parle du matériel, et c'est vrai que c'est important, mais c'est aujourd'hui, si on ne comprend pas l'importance du lien et de la richesse que peut amener cette lien avec les autres à travers la culture, à travers le fait d'habiter, à travers tous les aspects de la culture et la littérature, eh bien, on est misérable.
Autour de vous, il y a la romancière, poète, écrivaine, auteure de théâtre, Jeanne Benhammer. Elle fait beaucoup de choses avec les mots, Jeanne Benhammer. Elle peut écrire des poèmes, elle peut sortir un livre de contes, choisir le roman. Et puis, vous sortirez justement un roman fin août, Jeanne Benhammer, qui s'intitule « Ceux qui partent chez Actes Sud ». Bienvenue.
Bonjour, merci.
Et en face de vous, Patrick Bouchain, architecte, scénographe. Bonjour.
Bonjour.
Le mot « construire » est-il le mot que vous préférez de la langue française ?
Ben oui, parce que je pense qu'il regroupe énormément de choses et on ne peut pas construire sans être plusieurs. C'est impossible de construire seul. Donc déjà, c'est un mot qui réunit. Et ensuite, peut-être que construire, c'est le contraire de détruire. Et comme détruire, c'est négatif, j'ai choisi donc ce mot comme construire le monde.
Souvent, on vous appelle pour faire d'un lieu en friche, d'un lieu à l'abandon, un nouveau lieu, pour réinventer un espace. C'est un peu la touche Patrick Bouchain, ça. Je pense à l'usine de biscuits Lu à Nantes, qui est devenue un lieu culturel important. Et puis, il y a beaucoup de choses. Hein. Aubervilliers, Zingaro, on peut citer la condition publique aussi à Roubaix.
Moi, je n'ai pas vraiment fait de l'architecture. J'ai considéré qu'il fallait aider des gens à réaliser le lieu dans lequel ils allaient peut-être travailler et se représenter. Et donc, c'était une époque où les gens de théâtre disaient « il faut 1000 heures de travail pour 1 heure de représentation ». Et donc, on oubliait qu'il y avait 1000 heures de travail pour pouvoir se montrer au public. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ça. Est-ce qu'on peut se montrer dans le lieu dans lequel on travaille ? Et de dire que la culture, c'est du travail. Et c'est pas du divertissement et un loisir. Et donc, comme ça, j'ai fait des lieux de vie. Ce qui paraît absurde, parce que ça voudrait donc dire que les lieux de culture ne sont pas des lieux de vie. Et en faisant des lieux de vie, vous voyez, si vous faites un théâtre dans lequel vous pouvez dormir, parce que des fois vous travaillez la nuit, dans lequel vous pouvez manger, mais vous pouvez inviter. Et donc, c'est cette notion-là qui m'a intéressé dès le début, c'est peut-on inviter quelqu'un chez soi, y compris pour travailler, dormir et peut-être produire une œuvre artistique.
Et souvent dans ces lieux, vous commencez par installer pendant les travaux une cantine, hein, où tout le monde peut se retrouver, justement, ça commence par là, et cette cantine, très souvent, devient pérenne.
Ben d'abord parce qu'on oublie complètement que construire, c'est fait en général à la main, même dans un monde industriel, on assemble des objets fabriqués industriellement, mais l'assemblage est fait à la main. Donc la grande héroïne de l'humanité, comme disait Laura Gouran, c'est la main. Et donc montrer la main qui fait, c'est peut-être montrer à des gens qui pensent que le travail est un labeur et non pas une œuvre. Et donc c'est pour ça que je fais tout de suite le chantier ouvert au public, dont le public, ce sont les ouvriers et les commanditaires. Parce que ce qui est important, si vous voulez, c'est que quelqu'un, un jour, passe commande. Et quelle est cette personne qui passe commande ? Est-ce un élu ? Est-ce un habitant ? Est-ce un acteur ? Et donc, réunir celui qui construit avec celui qui commande et montrer à celui qui va s'en servir comment les choses se font, c'est peut-être ce qui manque au monde dans lequel nous vivons. Car nous ne possédons que des objets dont nous ne savons pas qui les a faits et comment ils sont faits, et nous ne saurons même pas les réparer. Et donc, on le voit bien avec Notre-Dame aujourd'hui. Vous vous rendez compte que pour réparer Notre-Dame, il a fallu passer par ordonnance une loi qui permet de déroger à tout. Ça veut dire que faire un bâtiment symbolique comme Notre-Dame, aujourd'hui, dans la société actuelle, avec les règlements, ça n'est pas possible. Et donc, est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour le logement social ? Pourquoi le fait-on pour un monument historique et pourquoi on ne le ferait pas pour la banlieue ?
Qu'est-ce qui résonne en vous, Françoise Nyssen, quand vous entendez ces propos de Patrick Bouchain ?
Je voudrais que Patrick rebondisse sur deux choses très très importantes, qui est le permis de fer qu'il a lancé, qu'il a imaginé, et d'une certaine façon, alors du coup, Notre-Dame, c'est le plus grand permis de fer qui soit. Et puis, ce que tu as évoqué aussi, et une troisième chose que je voudrais dire, parce que je le dis tout de suite, je reviens d'un moment éblouissant dans les villas palladiennes en Vénitie, où... Puisque le commerce avec l'Asie s'interrompait par la prise de Constantinople, les Vénitiens ont fait 180 degrés, se sont retournés vers la terra ferma, vers l'agriculture, et ont fait construire des villas par Palladio, qui n'était pas un architecte, mais qui au départ était un tailleur de pierre. Donc il savait réparer et construire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que tu évoquais ce que j'ai essayé aussi d'accompagner quand j'étais au ministère, c'est tous ces mouvements où on part des gens qui veulent des et des collectivités territoriales et qui est symbolisé d'une certaine façon par l'action des nouveaux commanditaires de François Hersh et qui est quelque chose qui est beaucoup trop peu connu mais qui redonne l'envie, la parole et le désir de faire œuvre d'art à partir des gens.
C'est vrai, de toute façon, c'est ça qui est assez drôle quand vous vieillissez. C'est qu'un jour, vous apprenez que votre ami devient ministre. Et donc, on est parti joyeux. Françoise est allée chez le coiffeur, Jean-Paul a acheté une cravate.
Son mari, Jean-Paul Capitani.
Ouais, voilà. Vous voyez, c'est comme si ça ne changeait pas. C'est comme si on quittait la maison pour aller dans une autre maison. Et donc, du coup, on s'aperçoit qu'en effet, on emmène avec soi ce que l'on fait dehors. Et on pense quelquefois que le pouvoir va vous permettre de faire plus facilement les choses.
Et ce n'est pas le cas.
Ben non, ce n'est pas le cas. Parce que, si vous voulez, en effet, Françoise, à ce moment-là, elle est prise par la machine, comme on dit. Et donc, elle perd ce que l'on est allé chercher chez elle. Vous voyez, on va chercher quelqu'un qui est une femme, qui est une chef d'entreprise, dans une entreprise culturelle, mais qui est très particulière quand même, l'édition et le livre. Et en plus, c'est quelqu'un qui vient de la région, qu'on dit péjorativement, de la province. La culture, en France, elle est en région. Elle n'est pas à Paris. Et le ministère est à Paris, et il est immédiatement phagocyté par ce que vous disiez tout à l'heure, les gens de culture qui s'approprient cette entreprise à eux. Et donc, elle venait avec quelque chose que personne n'avait amené, on pourrait dire. Et on la prend pour ça, et à peine on la prend pour ça, qu'on lui prend son temps pour faire autre chose.
Vous en voulez à qui ?
Ah non, moi j'en veux au fait, si vous voulez, qu'on est dans une société démocratique qui n'a pas encore réellement expérimenté la démocratie, c'est tout. On est plutôt dans une république que dans une démocratie. On est dans une démocratie républicaine, mais on n'est pas encore dans une société démocratique qui fait confiance aux gens, non pas pour faire des choses pour eux-mêmes, mais qui font des choses dans l'intérêt des autres, et en le faisant, qui transmettent aux autres. Voilà. Donc je pense qu'on n'a pas franchi encore ça. Et où on le franchit, c'est en général quand on a moins d'argent, moins de pouvoir, et c'est pour ça que là, la pauvreté dont parlait François tout à l'heure, c'est cette pauvreté généreuse qui fait qu'à un moment donné, donc voilà, avec moins, on peut donner plus, et peut-être qu'avec moins, on attire moins la convoitise des autres. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, on peut faire quelque chose qu'on ne fait pas. C'est ça que Françoise voulait amener au ministère, et c'est peut-être ça, en effet, qu'on lui a reproché, en disant « mais de quoi parle-t-elle ? C'est pas ça », et ainsi de suite. Et donc, elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait, et donc peut-être qu'il faut des fois être dedans et dehors. Vous voyez, il faut être dedans pour comprendre comment ça marche, pour peut-être mieux faire dehors. Donc quand vous lui posiez tout à l'heure la question « comment ça va aujourd'hui ?», elle s'est transformée parce qu'elle connaît mieux le dedans, et que peut-être ce qu'elle faisait avant dehors, et qu'elle croyait qu'au-dessus c'était peut-être facile à faire, peut-être qu'elle fera mieux dehors ce qu'elle faisait avant.
C'est bien d'avoir un ami comme Patrick Bouchain, Françoise Nyssen. C'est l'éloge de l'amitié qui vient d'être dit là en direct sur France Inter.
C'est essentiel, on vient de... Et l'amitié est le fondement aussi de la fraternité. Et on sort un livre, un petit texte d'Edgar Morin, « La fraternité, résister à la cruauté du monde ». C'est un livre essentiel et je reparlais du lien. Tout ça est essentiel pour avancer. Et c'est vrai que c'est beaucoup de chance pour moi de connaître Patrick et de pouvoir me nourrir à travers ce qu'il fait, à travers ce sur pourquoi je me suis toujours battue, parce que je viens aussi des luttes urbaines à Bruxelles. Donc on était dans une sensibilité commune depuis extrêmement longtemps avec des amis communs comme Lucien Kroll, grand architecte belge. Et on a publié beaucoup de livres dans une collection que Patrick dirige dans la maison qui s'appelle L'Impensé.
On va écouter un peu de musique et retrouver vos invités, Patrick Bouchain et l'écrivaine Jeanne Benhamer, Françoise Nyssen. Vous aimez la musique, la chanson, le classique. Est-ce que Schumann fait partie de vos compositeurs favoris ?
Oui, et il y a... Bon, je ne sais pas quel morceau vous avez choisi, je vous dirai après.
Le Quatuor pour piano et cordes, en mi bémol majeur, opus 47, le mouvement Andante Cantabile, avec au piano Martha Argerich.
Tout va bien. Thank you.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
C'est drôle, vous écoutez la musique comme on écoute quelqu'un parler, les bras croisés, avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que vous cherchez à entendre, Françoise Nyssen ?
Mais par essence, la musique de chambre et le lien et le dialogue. Et c'est quelque chose qui me bouleverse. En plus, ça, cette musique, je dis parfois qu'elle est tellement belle. Là, vous avez pris le mouvement vif, mais le mouvement lent, quand il commence, c'est presque douloureux tellement c'est beau.
C'est votre anniversaire aujourd'hui, on n'a pas envie de souffrance.
Oui, mais la beauté, ça peut aussi être une forme de souffrance et ce n'est pas un problème. Enfin, je veux dire, ce qui est important, c'est de pouvoir être habité par le sentiment de cette beauté, même s'il vous fait souffrir.
Vous racontez vos origines familiales et les joies et les souffrances d'une petite fille à Bruxelles avec des parents divorcés. Ça n'a pas toujours été simple. La lecture a été consolatrice, la musique aussi, la musique que votre grand-mère vous a fait découvrir et puis ensuite votre beau-père.
Oui, et j'aime bien cette histoire de ma grand-mère, parce que ma grand-mère, qui avait dû quitter l'école très jeune pour nourrir une famille très démunie de 12 enfants, était considérée comme la non-intellectuelle de la famille. Mais pourtant, c'était elle qui m'emmenait le midi, au concert du midi, qu'on allait écouter en mangeant notre sandwich. Et si ma mémoire est bonne, c'est là que j'ai découvert Clara Askill. Oui. Et puis ensuite, il y a eu mon merveilleux beau-père, qui est un des hommes que j'ai le plus aimé dans ma vie. Il a tellement compté pour moi et il m'a éveillée à la musique. C'est encore des époques où on écoutait la radio, on écoutait la musique. Et donc chaque fois qu'il y avait un morceau qui passait à la radio, il disait « devinez ». Donc je me suis mise petit à petit. J'ai appris la musique en l'écoutant. Je ne l'ai pas appris d'une façon universitaire ou même musicale. J'ai un peu touché d'instruments, mais c'est vraiment par l'amour de la musique et l'organisation de concerts depuis 40 ans.
Ah oui, parce
j'allais oublier, en fait.
À Arles,
grâce
vous
à Jean-François Esser.
De la musique avec le pianiste Jean-François Esser. C'est aussi le vœu de votre mari, hein, Jean-Paul Capitani. Oui. Toutes sortes de musique ou principalement du classique ?
Alors, nous organisons essentiellement une saison de musique de chambre de septembre à juin dans un pays qui est très habité par les festivals. Donc on a voulu proposer une fois de plus, toujours dans le même esprit, des activités pour les gens qui sont là toute l'année. Et donc en fait, oui, j'aime tout.
J'aime tout. J'aime tout. Jeanne Benhammer, romancière. Je dis romancière d'abord, je dis poète avant tout. Comment je dois vous qualifier s'il faut vous résumer ?
Je suis une femme qui écrit, voilà.
On a employé le mot « construire ». Tout à l'heure à propos de Patrick Bouchain, qui d'ailleurs a écrit une somme en texte et en images aussi très intéressante sur tout son parcours et ses constructions, qui s'intitule chez Actes Sud « Histoire de construire ». Construire, je pense que c'est un mot qui doit résonner en vous, parce que certes vous écrivez, mais vous transmettez aussi. Vous aimez animer des ateliers d'écriture, vous allez travailler auprès de jeunes, vous allez en prison aussi, faire en sorte que les mots aident et peut-être sauvent. Est-ce qu'il vous parle, ce mot « construire » ?
Oui, mais pas de la même façon que l'ami Patrick. Patrick dit bien que dans construire, il y a cum de toute façon dans construire. Il y a
cum, avec. C'est avec.
Oui, on est avec d'autres. Hein. Souvent, moi, quand je pars en écriture, je suis à la fois éminemment seule au moment du départ, animée par une quête très profonde, et j'essaie de découvrir quelque chose, et c'est ça qui va m'amener vers les autres. Donc, au départ, il y a quand même cette solitude, si on peut dire, qui est la solitude humaine, mais qui est faite pour rencontrer les autres. Donc je ne construis pas de la même façon.
Ça vous parle, ça, monsieur l'architecte scénographe, car c'est comme ça que on parle de vous, Patrick Bouchain ?
Ah oui, ça me parle, hein, parce que en effet, on est seul et avec les autres. On est un parmi les autres. On est un pour pouvoir rencontrer les autres. Et donc le travail de Jeanne, justement, c'est ça. Elle explique ce que c'est que la solitude avant de passer à l'acte. Chez l'écrivain, ce qui est formidable, c'est qu'on ne connaît pas son lecteur. On écrit quelque chose, et c'est comme si on le laissait partir, et on a quelqu'un qui, d'un seul coup, rentre en communication, et que vous ne voyez pas. Et lire, c'est magnifique, parce qu'on a l'œuvre entre les mains, et on peut rythmer la lecture, et on peut éteindre la lumière, rallumer, l'emmener en voyage dans sa poche et tout. Alors que moi, à l'inverse, c'est je suis seul, et à un moment donné, la panique, c'est que rien ne se fera sans les autres. C'est ça que les architectes ne comprennent pas. C'est que rien ne se fait sans les autres dans l'architecture. Rien. Vous pouvez dessiner, vous pouvez très bien dessiner, mais le dessin, c'est pas le rôle premier de l'architecte.
Ah, vous trouvez que l'architecte aujourd'hui est enfermé dans sa tour d'ivoire ?
D'ivoire, ça serait qualifier l'architecture. Je pense que l'architecte est enfermé dans une corporation qui est une corporation qui est en train de mourir, hein, parce que elle ne touche que une partie infime de ce qui nous entoure. Vous voyez, si encore on pouvait dire voilà, tous les architectes font notre environnement et notre environnement est harmonieux, on pourrait dire l'architecture est formidable. Mais moi, à chaque fois que je me parle, je me dis tiens, ça c'est le produit du règlement, ça c'est le produit d'un auteur. Est-ce que ce qui avait été fait avant, comme vous avez parlé tout à l'heure, de quelqu'un qui n'était pas architecte, mais peut-être un sculpteur ou un tailleur de pierre, quand vous lisez les grands textes et autres, vous apercevez que entre le sculpteur, le tailleur de pierre, le maçon et le maître d'ouvrage, le commanditaire, c'était une même chose pour qu'il y ait une œuvre. Et aujourd'hui, l'architecte pense qu'il s'isole, qu'il peut produire un dessin, et ayant produit le dessin, il va être choisi sur le dessin, après quelqu'un va l'exécuter. Et c'est pour ça qu'on est dans une architecture d'exécution. Et comme ce mot l'indique, l'exécution, c'est pas quelque chose qui est très agréable à vivre.
Il y a quelques années et quelques mois, Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani, son mari, vous ont demandé de dessiner, de construire, d'élaborer avec eux une école différente des autres. C'est l'école du domaine du possible. Est-ce que vous pouvez, avec vos mots à vous, Patrick Mouchin, nous dire ce que c'est que cette école ?
Alors d'abord, c'est parce qu'il y avait Antoine. Et comme le disait Françoise, la douleur, peut-être que le drame, a permis de passer à l'acte. Voilà, donc c'est irréparable, la mort d'un enfant. Mais peut-être que penser à lui ou lui parler en faisant quelque chose, c'est peut-être mieux. Donc on a décidé de le faire ensemble et on s'est redistribué les rôles. Je ne voulais pas être l'architecte, parce que je pense que Jean-Paul Capitani est un architecte. Et d'ailleurs, on lui a reproché.
De s'agrandir un peu trop facilement.
Voilà, on lui a reproché, mais j'ai voulu le défendre en disant que c'était moi qui les avais faites, les mezzanines. Parce que c'est inadmissible. Tout le monde construit. Un logement se transforme parce qu'on l'habite. Un bureau doit se transformer parce qu'on l'habite.
Je rappelle en deux mots qu'on a reproché à Françoise Nyssen et à son mari d'avoir agrandi les locaux parisiens d'Actes Sud sans autorisation, sans avoir prévenu le fisc, etc. Ça fait partie des reproches qui ont été formulés à votre encontre, Françoise Nyssen.
Et donc, pour reprendre, donc un jour, voilà, après cet événement dramatique, on dit tiens, allez, on fait une école. Et donc, comme j'aime bien provoquer, j'ai dit on l'ouvre dans 6 mois. On a dit, mais non, c'est pas possible, dans 6 mois, c'est pas possible. J'ai dit, si on l'ouvre pas dans 6 mois, on l'ouvrira jamais. Et donc, j'ai développé, il l'avait pas tout de suite vu, une école sans enseigne et sans lieu. De dire qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est pas l'école au sens du bâtiment, c'est l'école au sens du contenu. Et sans enseigne, parce que c'est peut-être pas non plus une école alternative à l'ééducation nationale, ni une école conforme aux écoles alternatives, c'est peut-être une école, voilà, comme on aimerait la faire, mais à notre échelle. Et donc cette école sans enseigne et sans lieu, puisque là vous avez passé donc de la musique et que Françoise a dit, voilà, nous on le fait à la chapelle du Méjean. Moi j'ai rappelé que j'étais dans une école chez les jésuites et que ma classe c'était une ancienne chapelle. Et donc on a dit, mais on peut ouvrir sans lieu et on peut donc ouvrir une école dans la chapelle. Et la chapelle, elle est raccordée à la maison d'édition. Donc est-ce que cette école ne pourrait pas être une maison qui serait la maison d'édition ou une école d'auteurs ? Et si on retourne sur Célestin Freinet a voulu former des auteurs, c'est-à-dire qu'en fin de compte, qui fabriquaient eux-mêmes leur journal. Et donc on s'est dit, tiens, et si on faisait une école qui serait à côté de gens qui travaillent ? Et on est parti comme ça, et on s'est redistribué les rôles. Je disais que Françoise était la psychologue, que Jean-Paul était l'architecte, et moi j'étais l'organisateur.
Alors quels enfants on y trouve dans cette école, qui a quand même un lieu, qui a trouvé quand même un espace, et qu'est-ce qu'on y enseigne ?
Alors l'espace... Aujourd'hui, mais c'est du nouveau un espace qui n'est pas isolé sur une école, mais qui est un lieu, qui est une, donc, Jean-Paul a donné au fonds de dotation à Antoine Capitani cette propriété agricole qu'il fait revivre dans un grand projet avec l'agroécologie. Ça aussi, on en parlera, et qui est tout un écosystème. Et l'école là accueille des enfants qui ont envie ou dont les parents ont envie qu'ils viennent pour grandir dans le désir d'apprendre et au contact de la nature et aussi par la confrontation au cheval, parce qu'il y a le cheval, les arts et les enfants, c'est une des choses qui m'a le plus frappée. D'entrée de jeu, ils ont commencé par chanter. Et chanter par excellence, c'est le fait d'être ensemble, c'est de regarder quelqu'un qui vous guide, c'est de regarder et d'écouter l'autre, et c'est donc cet apprentissage de l'être ensemble. Et en plus de ça, ils chantent dans toutes les langues, donc ils apprennent toutes les langues.
Vous regardez Jeanne Benhamer, parce que Jeanne Benhamer, vous êtes allée à cette école, vous y participez ?
Ah oui.
Bah oui.
Alors, c'est quoi votre rôle là-bas ?
Je viens, je regarde, j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe, et qu'on en sorte quelque chose.
Qu'est-ce qui se passe de différent par rapport à la scolarité traditionnelle ?
Je pense que chaque enfant est pris en compte, parce que là, c'est possible, d'une façon différente.
Ils ne sont pas très nombreux.
Ils ne sont pas très nombreux. Il y a le fait qu'il n'y a pas que les matières dites intellectuelles qui comptent d'abord, mais effectivement le corps est pris en compte aussi. Donc on a d'autres pratiques. Et puis, on réfléchit, on a le temps, on prend le temps de réfléchir autrement à ce qu'on fait. Mais je dois dire que dans l'éducation nationale, il y a aussi des endroits. Moi, j'en viens de l'éducation nationale aussi.
Vous avez enseigné, oui.
Oui, et donc on essaie de faire ça, mais on n'a pas les moyens de le faire, souvent. Là, ce qui était et ce qui est formidable, c'est qu'on se trouve dans ce lieu extraordinaire, ouvert, où la nature est là, et où Patrick a pensé aussi les choses, avec des gens qui sont très à l'écoute de ce qui va se passer. Et on travaille beaucoup plus les uns avec les autres.
Il n'y a pas d'idée d'une pédagogie déterminée, parce que c'est les grands pédagogues sont tous de plus de 100 ans, je dirais.
Oui.
On peut s'inspirer, mais l'école, c'est les enfants d'abord. Et donc, on travaille avec les enfants sur le projet, la pédagogie par projet, transversal. C'est toujours la même histoire.
C'est toujours la même transversalité, toujours. Et c'est toujours aussi la quête pour chacun. Et puis le fait que chacun peut être, Patrick disait, auteur, hein, pour Célestin Freinet. Moi, j'aime bien dire sujet, c'est-à-dire qu'on est vraiment sujet de son apprentissage.
Concrètement, ça ressemble à quoi, une journée d'un enfant qui est dans cette école du domaine du possible à Arles?
Je pense que chaque journée ne se ressemble pas, ne ressemble pas aux autres. Mais dès le départ, il y a effectivement le partage par le chant. Ensuite, chacun va retrouver les enseignants qui vont le suivre dans la journée. Il y a aussi des ateliers qui vont se faire l'après-midi. Et puis, il y a un temps aussi de cantine, qui n'est pas rien non plus, parce que dans cette cantine, on essaie aussi de faire en sorte que la nourriture soit réfléchie.
Ça vous donne envie d'avoir 9 ans, Patrick Bouchain?
Oui, 9-13 ans, c'est mon âge préféré.
Qu'est-ce que vous y aimez maintenant qu'elle ait lancé cette école? Qu'est-ce que vous appréciez là-bas, vous?
Les conflits. Comme on nous reproche toujours de ne pas faire les choses en règle, j'ai acheté le code de l'éducation qui fait 1600 pages avant de faire l'école. Et je le disais à Jean-Paul et à Françoise, ils me disaient bon, c'est trop compliqué à lire tout ça. Et en fin de compte, dans le code, les choses sont répétées. Et si vous regardez dans tous les codes français, il y a toujours un préalable. En 1804, quand Napoléon a fait le code civil, il dit il faut s'appuyer sur les us et coutumes et sur les lois royales et religieuses, et créer, en fin de compte, le code du vivre ensemble nouveau. Et donc, pour les codes de l'éducation, il y a un préambule de Condorcet. Et Condorcet dit, l'école doit être sans lieu, les colporteurs du savoir iront de lieu en lieu, et ils iront dans des locaux, dans des fermes, dont les locaux seront mis à disposition aux colporteurs du savoir. Et donc, cette école, elle sera reliée à la nature, vous rendez compte, et ça sera une classe unique, puisqu'en fin de compte, on recevra les gens. C'est cette école-là que l'on veut. Et à chaque fois qu'on fait cette école, en effet, à l'éducation nationale, il y a toujours ces tentatives, et on vous rattrape toujours par une réforme, par un machin, par une salle de classe fermée et tout. Et donc là, on est revenu à la base. Est-ce qu'on peut avoir une école, mais c'est pas agroécologique pour être à la mode, c'est une école qui est reliée aux saisons. Si un enfant peut sortir de sa classe et voir qu'il pleut, ben il pleut. La moitié du monde attend la pluie. Chez nous, quand il pleut, on n'est pas content. Le préau est couvert. Là, non, quand il pleut, les enfants jouent sous la pluie. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et donc, en effet, se relier à la nature, eh ben, vous avez un conflit parce que vous avez un jour quelqu'un qui dit les enfants rentrent avec les pieds crottés. Et donc, qui nettoie, qui balaye, ben, on ne va pas prendre une femme de ménage. Vous nettoirez vous-même. Voyez, c'est ce conflit permanent qui fait que vous réapprenez à vivre simplement. Et les enfants, vous voyant vivre simplement, apprennent à vivre tout simplement.
C'est un combat de faire en sorte que cette école vive. Je me souviens qu'au début, par exemple, un Mélenchon disait « c'est une dérive sectaire, oh là là !» Comment vous vous défendez de ça?
On n'a pas à se défendre, parce que ce n'est pas intéressant de passer du temps à cela, mais c'est plutôt de faire et de montrer ce qui se fait. Je me souviens de le premier jour de l'école dans la nature, parce que ça, ce rapport à la nature, il est essentiel. Et c'est la résilience avec l'architecture et tout ça qui nous permettra peut-être d'envisager un récit pour l'avenir. Mais le premier jour dans cette école-là, alors que les travaux n'étaient pas finis, que donc les normes, les règles, etc. Et donc, quelques regards angoissés des parents. Et je me souviens, Patrick leur a dit, écoutez, réjouissez-vous d'être dans une école en construction et non en destruction, comme dans une grande partie du monde. Mmh. Et c'est cet esprit-là, c'est de toujours voir ce qu'on peut apprendre de la situation où on est.
On écoute Angèle ?
Oui.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Pas les te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire en mmh. Oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Pas les te faire en mmh. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Voilà, vous ne connaissiez pas Angèle, Patrick Bouchain ?
Si, ma petite fille qui n'écoute que ça, elle a 2 ans et demi, et donc je ne connaissais pas la semaine dernière. Voilà.
Et donc elle bouge sur balance ton quoi ? Et vous aussi d'ailleurs, j'ai marqué un peu l'épaule. Hein ? Je vais vous laisser, je vais arrêter de vous embêter, vous devez partir. Merci d'être venu dans le grand atelier de Françoise Nyssen. Je rappelle aussi le titre de votre ouvrage chez Actes Sud, Histoire de construire. Construisez bien.
Merci beaucoup.
Et merci Patrick.
Jeanne, alors tu me remplaces au conseil d'administration de l'école.
Yes.
Françoise Nyssen, il y a beaucoup d'écrivains chez Actes Sud, beaucoup de romanciers, beaucoup de poètes, beaucoup d'auteurs de théâtre. Pourquoi Jeanne Benhamer fait partie de votre grand atelier ?
La question du choix, elle est toujours difficile, mais avec Jeanne, il y a une complicité particulière. J'avais découvert Jeanne grâce à notre libraire qui m'en avait parlé avec Les Demeurés. Et à partir de ce moment-là, j'ai été attentive et j'étais extrêmement heureuse qu'à un moment donné, elle vienne nous confier les livres qu'elle écrivait.
Ça fait à peu près 13 ans hein, que vous êtes chez Actes Sud.
Et
2006.
10 ans. Et on parlait tout à l'heure de la solitude des lieux et j'avais envie de rappeler cette solitude intérieure, cette questionnement intérieur et ce lien aux autres à travers un livre absolument magnifique qui est Otage intime et qui aborde ces questions-là et aussi, d'une certaine façon, dans ce livre qui va sortir à la rentrée, ceux qui partent, parce qu'il est question de gens qui se retrouvent sur ce bateau à Ellesley Island, qui ne se connaissaient pas, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même intention, qui n'ont pas la même histoire. Et qu'est-ce qui va se tisser entre eux et qu'est-ce que leur langue, leur corps va amener comme lien. Et ce travail que Jeanne fait avec les mots, mais les mots qui disent la sensibilité, où on perçoit aussi le mouvement, parce que le mouvement est très important pour Jeanne, et le mouvement des corps, c'est quelque chose qui me touche profondément.
Jeanne Benhammer, Ceux qui partent, on va lire quoi? Un roman sur l'exil?
L'exil et la vaillance. Parce que finalement, moi, je viens de familles aussi, hein, qui viennent d'autres langues.
Père tunisien?
Oui.
Mère italienne?
Mère italienne, oui. Italie du Nord, matinée avec l'Autriche. Donc, ça fait cette Italie du Nord qui a tellement bougé avant 1850.
Ils arrivent en France quand?
Mes parents, ils étaient déjà en France avant que je naisse. Mon père bourlinguait beaucoup à l'époque. Et ils se sont rencontrés en 36 dans le nord de la France.
Et donc l'exil était une évidence en fonction de vos racines et de votre parcours?
Oui, il y a quelque chose qui m'intéresse dans l'exil, c'est que je me suis rendu compte de quelle confiance extraordinaire il faut avoir dans les autres pour se lancer comme ça. Bien sûr, on est dans des vies qui sont insoutenables quand on part, des vies invivables. On ne part pas par caprice, hein. Les gens qui arrivent en France aujourd'hui n'arrivent pas par caprice en France. Ils arrivent parce que ça n'est pas possible de vivre là où ils sont. Mais quelle vaillance, quel courage, quelle confiance dans ce que c'est que l'humanité, que de franchir ce pas où finalement on sait que ce qui était notre langue maternelle va devenir une langue étrangère dans le pays où on est. Et ça provoque dans le corps des choses. Et moi, je ressens encore ces choses-là. La langue maternelle de mon père et celle de ma mère étaient différentes et n'étaient pas le français. Et j'ai eu envie d'aller voir ça, de le penser, d'y réfléchir, et j'ai choisi 1910. Je n'ai pas choisi notre époque, et j'ai choisi New York. On oublie que cette fameuse nation américaine, elle est quand même faite de tout ça. Même Monsieur Trump, certainement. Si on remonte.
Et du coup, vos protagonistes, vos héros, peut-être, débarquent à New York et vivent quoi?
On va les prendre juste avant qu'ils ne débarquent à New York. Ils sont sur Ellis Island. Et il y a un jeune New-Yorkais qui vient les prendre en photo. Et comment va se passer la rencontre entre le monde de New York, c'est-à-dire ceux qui sont censés accueillir, et ceux qui viennent de toute l'Europe? Comme une tour de Babel, cette Ellis Island bruissante de toutes les langues d'Europe. Déjà, entre eux, ce qui se passe, l'intensité des relations, et là, le corps, évidemment, joue un grand rôle, et Eros, évidemment, est fortement en jeu, puisqu'on va vers la vie. Et on va les prendre juste au moment où il y a la bascule, et on va imaginer ce qui va leur arriver.
Vous aviez une éditrice qui un jour est devenue ministre de la Culture. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir François Nyssen vous quitter un temps pour une fonction politique qui n'est pas sa base, sa formation? Est-ce que d'abord vous avez eu peur pour elle?
Alors non, comme Patrick au départ, moi j'étais joyeuse en me disant « ben formidable, on prend quelqu'un qui sait ce que c'est et donc Françoise, elle va pouvoir faire comme elle l'est ». Quoi. Après j'ai été assez en colère.
Contre qui?
Contre qui?
Dit-elle en regardant la ministre. Des reproches de quoi? D'incompétence qu'on a pu entendre, cette fameuse mezzanine, ces fameuses mezzanines. Qu'est-ce qui vous a mis en colère, Jeanne Benhammer?
Ce qui m'a mise en colère, surtout, c'est le fait qu'elle ne puisse pas faire. C'est-à-dire qu'on ne la laisse pas se déployer. Moi, j'avais le sentiment que cette femme que je connais bien quand même, je sais qu'elle sait faire et qu'elle peut faire. Et juste là, de voir à quel point c'était barré, c'est-à-dire son cœur de métier, on l'a fait venir pour ça, et on lui enlève l'endroit où elle peut se déployer.
Le livre.
Moi, je me dis, mais enfin, on marche sur la tête. Pourquoi est-on allé la chercher, alors?
Pourquoi vous n'avez pas démissionné?
Alors, c'est une question, mais on était... pour ce qui concerne le livre... Il faut quand même préciser que c'est pas le gouvernement qui m'a enlevé le livre, c'est la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et je me suis bataillée avec eux en discutant, en leur faisant valoir que c'était absurde, que une de mes volontés, c'était notamment de défendre la régulation qui est le pouvoir de faire. Et d'ailleurs, je me suis battue, et je tiens à le dire, pour qu'il y ait ce vote final avec tous les gens qui sont battus à l'Europe pour le partage de la valeur, pour la création d'un droit voisin qui a fait juste pchit dans la presse, et ça
me rend absolument dingue. Mais je me suis battue là-dessus parce que je pense que c'est très important de pouvoir se battre sur cette nécessaire régulation comme la loi langue. Et donc j'essaie d'expliquer au président de la Haute Autorité que s'il m'enlevait l'économie du livre, je ne pourrais pas faire ce travail essentiel, parce que dans un monde de prédateurs, si on n'est pas attentif à préserver l'écosystème par une régulation, eh bien, on va à la catastrophe et on se laisse vraiment détruire.
Et quelle réponse avez-vous entendue ?
Et non, risque de conflit d'intérêts, parce que vous comprenez, vous avez, alors c'est vrai qu'on a transmis notre entreprise, on a la chance d'avoir des filles qui font et qui sont venues porter en responsabilité, et donc on dit oui, mais c'est, elles sont vos filles, donc vous allez peut-être œuvrer pour favoriser votre maison, enfin c'est des choses même inaudibles, et ne pensant pas qu'une personne peut être habité par de la déontologie et par une éthique. Et c'est la défiance. Et c'est une des choses, autant moi je suis portée par l'envie d'une cohérence, autant j'étais confrontée en permanence à ce qu'on appelle la défiance. Et ça, c'est vraiment terrible.
Et pourquoi n'avez-vous pas démissionné, comme l'a fait votre ami Nicolas Hulot, que vous citez comme un ami dans votre livre ?
Alors, Nicolas Hulot a démissionné dans un autre contexte, il s'est souvent posé la question. Et d'ailleurs, quand il a démissionné, je l'ai appelé pour dire « est-ce que je démissionne ?» Il m'a dit « ne démissionne pas Françoise, parce qu'à partir du moment où on peut ancrer quelque chose, faire. » Et il y avait une politique que je menais, notamment essentielle. Bon, sur la régulation, je vous en ai dit un mot. Donc, c'est le 12 septembre, c'est après la démission de Nicolas que le vote au Parlement européen a eu lieu. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est important de voter pour l'Europe, parce qu'il se passe là des lois qui, après, impactent notre quotidien, hein, et notamment l'histoire du partage de la valeur, de la régulation du droit d'auteur à l'ère du numérique, c'est essentiel. Et tout ce travail qu'on faisait autour de la pratique artistique et de faire en sorte que les artistes puissent irriguer l'école et que les enfants puissent reprendre confiance, autonomie à travers une pratique artistique, ce qui n'est pas fait suffisamment en France. Et là, il y avait une vraie complicité avec Blanquer, l'idée des chorales, l'idée de soutenir toutes les associations, le Labo des Histoires, les championnats de la lecture, et toutes ces choses-là, enfin toutes ces activités qui mettent en avant ça, ça me paraissait essentiel. Et j'avais envie d'avancer au maximum en me disant, bon, par exemple, les européennes, ce sera un bon terme pour moi. Donc là, je voulais avancer. L'accès à la culture, avoir travaillé le pass culture dont tout le monde se moquait, non pas comme un outil de consommation, mais comme un outil d'accès à la culture, me paraissait important. Il me paraissait important d'aller jusqu'au bout.
C'est drôle, vous êtes encore un peu ministre de la culture, là.
Je suis animée.
Mais libérée.
Sans doute. Mais c'est essentiel, cette question de la pratique artistique et culturelle, tant qu'elle ne sera pas une évidence. Je disais à Jean-Michel Blanquer, tant que tu n'auras pas ouvert tes programmes avec 2 heures de pratique artistique et culturelle tous les après-midi avec des artistes dans les écoles, on n'y sera pas. C'est essentiel.
Françoise Nyssen, je vais remercier Jeanne Benhamer d'être venue vous accompagner. Jeanne Benhamer qui sort à la fin du mois d'août « Ceux qui partent chez Actes Sud ». On vous souhaite du succès. À tout de suite, Françoise Nyssen.
Je crois que je peux me définir comme quelqu'un d'extrêmement curieux. J'adore découvrir, d'ailleurs... Pendant 40 ans, j'ai passé mon temps à découvrir. Et c'est vrai que je me nourris au quotidien de musique, de cinéma, de théâtre, de littérature. Et c'est une véritable passion.
C'est son anniversaire aujourd'hui et c'est aussi sa fête puisqu'elle est dans le grand atelier Françoise Nyssen, toujours avec nous, ancienne ministre de la Culture, patronne des éditions Actes Sud, auteur d'un livre « Plaisir et nécessité » qui sort chez Stock dans la collection « Puissance des femmes ». Je vais présenter vos invités, si vous le voulez bien, de cette deuxième partie de votre grand atelier, Françoise Nyssen. Il y a en face de vous Arthur H. Bonjour.
Bonjour.
Auteur de Fugue au Mercure de France, l'un de nos grands musiciens français. Et puis Perrine Herbé-Gruyé. Bonjour.
Bonjour.
Toute bronzée, car vous êtes l'une des représentantes en France de la permaculture et vous dirigez avec votre mari la ferme du Bec et Loin dans le département de l'Eure. Vous allez nous raconter tout ça et
oui,
toutes vos activités. On parlera de littérature et de politique. À nouveau, hein, Françoise Nyssen dans cette deuxième partie. Vous voulez bien qu'on écoute Arthur H, qui va chanter a cappella.
A cappella, ah oui.
Non, qu'est-ce qu'on pourrait écouter ?
On pourrait
écouter un extrait d'Amour chien fou, hein, votre dixième disque. J'ai une petite préférence, moi, pour Il, Elle.
Ah, c'est une chanson légère, mais néanmoins réaliste, parce qu'elle parle d'un jeune homme que j'ai connu. Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas.
quels sont ses seins qui poussent. Il est un très belle femme par cette petite secousse, comme une princesse qui tousse. Je change de carapace. Il est un très belle femme, anima animus. En moi se cherche le plus, je suis bien plus que un. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Oh, oh mes femmes, oh milieu, sois toi-même. Être unique et précieux, sois toi-même. Oh mes femmes, elle est beau, il est belle. Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ses poils qui poussent? Elle est un très bel homme par ses petites secousses. Un garagiste qui tousse, je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima animus. En moi se cherche de plus, je suis bien plus que us. La yin est dans le yang est dans le yin. La yang est dans le yin est dans le yang. La yin est dans le
entendu les paroles, hein, Françoise Nyssen d'Arthur H. Homme et femme au milieu, sois toi-même. Croirait une phrase de Françoise Nyssen. Sois toi-même. C'est un peu ce que vous dites quand vous créez une école du domaine des possibles, quand vous avez envie d'associer toujours le plus de monde pour un travail commun. Il y a cette idée d'être soi et d'apporter son soi aux autres.
Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, y compris pendant ces 17 mois rue de Valois.
Péniblement.
Et non, pas péniblement, parce que c'est ce qui a été retranscrit, je dirais, à travers des filtres que je ne prends pas complètement pour moi, mais ces 17 mois, chaque semaine, j'allais sur ce qu'on dit un territoire, j'allais voir les gens, j'allais à la rencontre.
Vous êtes beaucoup déplacé.
Énormément, et c'était formidable. J'ai été en Guyane, et j'ai été à Saint-Pierre-et-Miquelon, et j'ai adoré aller dans la campagne de Limoges, et j'ai adoré aller à Charleville-Mézières.
C'était pour montrer que vous n'étiez pas déconnecté.
C'est pas pour montrer, c'est pour aller à la rencontre des gens, et pour me nourrir de ce qu'ils font, et pour évidemment célébrer, parce que la culture et la vie culturelle, elle part des gens, je le répète, enfin c'est vraiment important. Et Arthur, quand vous avez accepté qu'il vienne, j'étais un peu regardée. Je me suis dit, mais voilà, en fait, outre la qualité des textes, puisqu'on l'a même publié, outre la qualité, parce que j'aime tellement tout ce qui est chanson, il y a énormément de choses qui sont en lien. Et je suis retombée sur la lecture de poèmes avec Jean-Louis Trintignant.
Ouais.
Et ça m'a profondément émue.
Vous l'aviez accompagné en musique ?
En fait, j'aime tellement la voix de Jean-Louis Trintignant que j'écris un long texte pour qu'on se rencontre et qu'on fasse quelque chose ensemble, parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, Jean-Louis Trintignant.
Nous sommes partis dans la forêt, là-haut, où ça grimpe. Guidés dans un sentier de lumière, par les oiseaux et par le vent.
Et j'ai trouvé, encore plus avant, qu'il a accompagné et chanté avec quelqu'un que j'aime infiniment et qui n'est plus et qui est Lassa. Et ça m'a profondément émue. Mais ouais. C'est vrai que la première fois où j'ai vu, à part le moment de la publication, où j'ai vu Arthur
en scène,
c'était quand on était ensemble pour que les colibris et ouais, pour toutes ces actions qui nous rassemblent. Mmh. Et c'est vrai qu'avec Perrine et avec Arthur, on partage cette conviction qu'il s'agit de prendre en compte notre plus grande richesse qui est la Terre.
C'est votre avis aussi, ça, donc vous confirmez ce que vient de dire Françoise Nyssen. De quelle manière vous partagez ça concrètement ?
Ben, voilà, je suis très sensible, évidemment, intellectuellement à la permaculture, parce que je mets pas, malheureusement, je suis parisien, triste parisien, donc j'ai pas la possibilité de mettre vraiment mes mains dans la terre. Mais par contre, j'ai tout de suite compris l'importance capitale de ça dans ce monde aussi, qui d'une certaine manière est toujours en train de sombrer et en train de renaître. Aujourd'hui, on se concentre particulièrement sur tous les problèmes inouïs qu'on a à tort ou à raison. On a de plus en plus l'impression d'être sur une espèce de Titanic qui va vers l'iceberg. Ce qui est vrai est faux en même temps, parce que le monde est aussi toujours en train de se réinventer, de se renaître. Et moi, la musique, c'est un art très vivant. L'agriculture, c'est un art très vivant. Et c'est justement une façon d'être en contact très direct avec cette espèce de mouvement perpétuel de la vie qu'on incarne, en fait, en tant qu'être vivant. Moi, je trouve qu'on fait partie de la nature, en fait. On est la nature en mouvement. On a la nature qui échoue et qui réussit toujours et qui se renouvelle toujours. C'est pour ça que je trouve que, en tout cas, la musique a énormément de liens communs avec l'agriculture et aussi la cuisine.
Ah bon? Racontez-moi ces liens.
Bah, parce que c'est de la nourriture, en fait. C'est un contact direct avec le mouvement, avec l'énergie. Et ça nourrit. Il y a des nourritures qui empoisonnent et des nourritures qui régénèrent. Et la musique, c'est pareil. Il y a des musiques qui vont t'alourdir et des musiques qui vont littéralement te régénérer. Moi, on m'a dit vraiment 40 000 fois, voilà, j'étais au fond du trou, la musique m'a tenu, m'a donné une énergie comme ça qui m'a permis de me renouveler, quoi.
Un engrais naturel.
Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nourriture intime. Donc c'est pour ça que pour moi, l'agriculture, c'est vraiment quelque chose de très, très important, quoi.
Vous la pratiquez comment, alors, Perrine Herbégruyer, l'agriculture?
Musique, bien sûr.
En musique, en écoutant Arthur H, là, vous êtes un peu faillotte. Mais
avec le chant des oiseaux, c'est déjà pas mal.
À quoi elle ressemble, la ferme du Bec et Loin? On a l'impression que c'est la ferme du bonheur.
Je ne sais pas si c'est la ferme du bonheur, en tout cas, c'est...
Pour quelqu'un qui ne connaît pas la permaculture, par exemple, qu'est-ce qu'on voit là-bas et qu'est-ce qu'on y pratique?
C'est l'incarnation d'un écosystème qu'on serait allé chercher dans la nature, d'un écosystème à l'état naturel. Alors, ça peut paraître être un pléonasme, mais non, c'est un écosystème que l'on a respecté, que l'humain n'a pas transformé de façon incroyable pour l'exploiter. Et donc, au sein de cet écosystème, on s'est dit, on va produire une nourriture saine, de qualité, de saison, bien évidemment, pour nourrir tous les gens qui le souhaitent. Et c'est aussi simple que cela. On a recréé une espèce de mosaïque de petits jardins. Alors, nombre de personnes nous ont dit, quand on vient chez vous, c'est le jardin d'Éden. Je ne serais pas allée jusque-là. Mais effectivement, on a essayé de tirer la quintessence de la beauté de la nature, de sa productivité, de sa générosité, et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, de ce bien-être qu'elle est censée apporter à l'être humain, qu'on a un petit peu oublié, malheureusement, de nos jours.
Alors, vous plantez quoi? Vous plantez comment? Et comment vous respectez la terre?
Le végétal, en fait, on l'appréhende comme la récompense du soin et de l'amour qu'on a apporté au sol. En fait, s'il n'y a pas de sol, s'il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de production, il ne se passe rien, il n'y a pas de vie. En fait, il y a un respect total de tous les éléments.
Et tous les cultivateurs vont vous dire, on fait ça aussi avec amour et on ne fait pas de la permaculture?
Non, parce que beaucoup se focalisent sur le végétal. Nous, on prend en compte la globalité de l'écosystème, avec l'être humain à l'intérieur d'ailleurs, y compris. Mais si on respecte les sols, si on les couvre comme ils le sont dans la nature, un sol n'est jamais à nu. Il va se couvrir d'orties, de mousse, d'herbe, de tout ce qu'on veut. Il y a des arbres, il y a des mares, il y a des haies, il y a des buissons, il y a de tout. Il y a
tout ce que vous reconstituez, vous aussi.
Exactement. Donc cette mosaïque dont je parlais, c'est ça. C'est reprendre un écosystème naturel, l'amener dans la ferme et à partir de là, essayer de produire à l'intérieur de cet écosystème.
Ça vous parle donc, Arthur H?
Beaucoup, ouais, c'est parce que ça parle de collaborer avec le vivant, en fait. Ça parle d'une amitié entre les différents aspects du vivant. Et ça parle pas du vivant comme une espèce d'objet qu'on va exploiter et qui va produire une souffrance terrible, notamment des animaux, tout ça. Pour moi, c'est clairement le futur, quoi. Le futur, c'est ça, c'est collaborer avec le vivant de manière intelligente. Et qu'est-ce qui est plus parfait et plus harmonieux et plus efficace que la nature? Rien, parce que là, on est la preuve vivante, parce qu'on est vivant, on est là après des millions d'années, donc la nature fonctionne, quoi.
L'attention au vivant, est-ce que ça parle aussi aux musiciens de scène que vous êtes? Votre rapport à l'autre, est-ce qu'il prend en compte ce qu'on vient d'entendre d'une certaine manière?
Oui, parce que là, on a écouté un disque, par exemple. Et alors, j'adore faire des disques et tout ça, mais le disque n'est pas naturel pour la musique, parce que ça fige la musique dans un moment. En plus, faire un disque, c'est toujours complexe. Enfin, voilà. Mais on fait quelque chose qui n'est pas naturel, qui te fige la musique. Or, en scène, la musique est toujours vivante, elle est dans l'instant, elle est spontanée. Et moi, je pense, sûrement le seul chanteur français, dans le cadre de la chanson française, où il y a beaucoup d'improvisation pendant le concert, y compris poétique et musicale. Je travaille avec des musiciens que j'adore, on est reliés télépathiquement et on improvise, c'est-à-dire que chaque moment est unique et c'est une improvisation avec le public aussi, en harmonie avec le public. C'est pas un show qu'on fait, on vient vous montrer ce qu'on fait, voilà, c'est carré, c'est net, c'est efficace et tout ça. Ce qui peut être très bien aussi, c'est un moment qui se passe dans l'instant. Et pour moi, c'est très très important d'être à l'écoute de cette vie dans la musique et qui passe du coup par l'improvisation.
Françoise Nyssen ?
Non, je voulais aussi revenir sur cette importance parce que vous disiez, mais tout le monde, tous les agriculteurs font ça, c'est oui. Vrai, mais ils introduisent dans l'écosystème ce qu'on appelle les intrants. Je suis chimiste, hein, au départ, ils introduisent de la chimie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a, et c'est peut-être un peu la même chose avec les enregistrements, il y a un appauvrissement du sol, et du coup, c'est tout l'écosystème qui est déstabilisé, puisque les légumes et tout ce qui pousse avec un sol qui est nourri d'intrants sont moins riches et donc sont moins bons pour l'humain, sont moins profitables pour la santé. Donc c'est une façon d'envisager l'économie qui est absurdissime, parce qu'elle est source de coûts. Et c'est pour ça que l'écosystème est tellement important, et de prendre en compte toutes les richesses qui ne sont pas uniquement le fait de la production immédiate matérielle. On va aller vers une croissance de richesse si on prend en compte toutes ces façons d'envisager différemment l'économie.
Périne Herbégruyer.
Je crois que nous sommes avant-gardistes dans la façon dont nous pratiquons l'agriculture, en ce sens que nous sommes complètement inadaptés à la société de consommation et au système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui. Ce qu'on fait,
vous n'êtes pas dans l'idée de rendement.
On est dans l'idée de rendement, parce qu'on intensifie, on densifie les cultures de façon à être le plus rentable possible sur toute petite surface.
C'est ça, c'est une petite surface qui peut être rentable, qui
oui,
doit être rentable.
On a fait une étude avec l'INRA qui a démontré que sur 1000 m2 de surface cultivée, on avait des résultats quasi équivalents à plus d'un hectare en mécanisé.
En faisant
donc
quoi,
on est,
alors,
on est dans un paradoxe
pour obtenir ça.
Alors, on fait quoi? On est dans, encore une fois, un respect complet de l'écosystème. On le connaît, on apprend à le connaître. Et puis, on design. Alors ça, c'est un horrible anglicisme qu'on utilise beaucoup en permaculture. C'est-à-dire qu'on aménage l'écosystème. On le comprend, on le lit, on analyse. Et à partir de là, on prend des décisions. Mais les décisions, elles sont toujours faites en grande humilité. On n'est pas dans une logique de je détruis la nature, je suis exploitante de la nature. Non, je lis la nature, je la comprends et j'essaye de m'insérer avec. En fait, c'est une danse qui se fait avec la nature. C'est-à-dire que l'être humain n'est plus posé sur la terre et dominant, si vous voulez. On est dans une espèce d'harmonie, on danse tous ensemble. Alors c'est un équilibre toujours très précaire, c'est pas facile tous les jours, mais on prouve à contre-courant complet que sur toute petite surface, en faisant les choses à la main, avec toutes les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, on peut être extrêmement performant en agriculture en 2019.
Françoise Nyssen, qui est Cyril Dion ?
Cyril Dion, c'est un saltimbanque d'abord. Mmh. C'est un homme qui n'arrête pas de penser à comment faire en sorte que la terre, pour les jeunes, soit une terre vivable. Et qui, très inspiré par notamment l'espèce fabulatrice de Nancy Houston, s'est vraiment posé cette question fondamentale, à savoir, il faut que nous nous racontions le récit du possible. Et donc, on a créé ensemble, et avec Jean-Paul Capitani, mon mari, qui est vraiment à l'initiative de ça avec Cyril, cette collection qui s'appelle « Le domaine du possible », qui accueille d'ailleurs les livres de Périne et de Charles, et « Vivre avec la terre », l'incroyable...
Un gros coffret qui vient de sortir.
L'incroyable œuvre qu'ils ont mis, mais aussi « Demain », qui était, je vous rappelle, l'objet de « Demain » que Cyril a imaginé, c'était de dire tout ce qui était possible. Ouais. L'autre jour, il était à la Maison de la Poésie et il a terminé sur un texte magnifique en disant « Nous sommes ceux que nous attendions ». Donc la réponse est aussi en nous, pour nos enfants, et qu'on nous donne une idée d'un possible à imaginer avec les jeunes. Et je vous assure que d'entendre les jeunes qui lisaient cette déclaration, c'était réconfortant.
On a un jeune qui a 17 ans, qui s'appelle Gustave Collard, qui fera de la philosophie l'année prochaine. Il a bien voulu lire une des tribunes de Cyril Dion. On l'écoute, Gustave.
Que nous ayons 15, 30 ou 45 ans, nous connaîtrons le monde d'après, celui du basculement. D'une certaine manière, nous le connaissons déjà. Dès aujourd'hui, le climat de notre planète s'est réchauffé de 1,2 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et il ne s'agit pas uniquement de climat, mais d'une guerre engagée contre le monde vivant. Nous avons fait disparaître 60% des populations des animaux vertébrés en 40 ans, 75% des insectes en 30 ans, 30% des oiseaux des champs et la moitié des animaux marins. Si nous continuons sur cette trajectoire, les scientifiques du GIEC nous prédisent une augmentation de près de 5 degrés d'ici la fin du siècle. Certaines projections sont même plus pessimistes. En 2009, le directeur de l'Institut de recherche climatique de Potsdam avait établi une modélisation. Selon lui, si nous dépassons 5 degrés de réchauffement planétaire, nous ne pourrons être qu'un milliard d'êtres humains sur cette planète. Pas 10 ou 11, comme le prévoit l'ONU, pas 7, comme aujourd'hui, seulement 1. Égrener ces chiffres n'est pas une fascination du pire, c'est un cri. L'ultime cri de notre génération, avant que la vague ne déferle sur nous tous, de façon irrémédiable. Nous tous, que nous soyons jeunes, vieux, noirs ou blancs, de droite ou de gauche, du nord ou du sud, artistes ou responsables politiques, entrepreneurs ou citoyens, devons construire une vaste alliance, unir nos forces et nous mobiliser comme jamais aucune communauté humaine avant nous. Notre avenir commun en dépend.
Périne Hervé-Gruyer, ça vous parle, cet extrait d'une tribune de Cyril Lion, l'auteur, l'écrivain, le réalisateur, le militant écolo?
Énormément, parce qu'on voit toute cette jeunesse qui est en train de s'emparer de cette problématique environnementale. Et nous, ça nous rebooste. Hein. Avec Charles, nous avons créé cette ferme en 2006, donc il y a quelques années déjà.
La ferme du Bec-et-Loin.
Voilà. En grande conscience que la situation de la planète était en train de se dégrader. Et bien évidemment, on pensait à nos enfants, à l'avenir de nos enfants sur cette planète. Et c'est l'une de nos motivations principales, c'est de se dire quelle planète on va leur laisser, quel monde on va leur laisser, quelle humanité on va pouvoir leur léguer. Et voir tous ces jeunes qui se mobilisent aujourd'hui, on se dit... Voilà, ça y est, peut-être, on est parti grâce à eux.
On va continuer de parler ensemble, Françoise Nyssen, avec vos invités Arthur H. et Périne Hervé-Gruyer. Je voudrais qu'on écoute Barbara. Racontez-nous dans quelles conditions vous la découvrez, Barbara, et vous la voyez, vous l'entendez.
J'avais 14 ans, mon père...
Hubert Nyssen.
Hubert Nyssen, qui m'a beaucoup inspirée, avait transformé son agence de publicité le soir en un petit théâtre, et il y accueillait... certes des musiciens dits de musique classique, c'est-à-dire des pièces de théâtre, mais aussi des chanteurs comme Colette Magny, Cora Vauquer et Barbara. Et donc Barbara, c'est l'époque où elle crée Göttingen. Et donc ce soir-là, elle a chanté devant nous Göttingen en avant-première. Ça a été un éblouissement.
Ah oui.
C'est vrai que je crois que j'aime toutes les chansons de Barbara. Mais...
Et elle a eu l'occasion aussi de chanter Göttingen en Allemagne et en allemand. Ah. On vous propose d'ailleurs les deux versions.
Gewiss, dort gibt es keine Seele und auch den Wald nicht von Wenzel. Doch gäb's viel was zu sagen blieben von Göttingen, Paris besingt man immer wieder. Von Göttingen gibt's keine Lieder und dabei blüht auch dort die Liebe in Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Seine. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, la, 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 la. Tout de même à Göttingen, Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Vous avez 14 ans, là, quand vous écoutez Göttingen, Françoise Nyssen?
Oui.
Et vous, Arthur H., elle fait partie des chanteurs, des auteurs qui vous ont influencé, au-delà de votre père Jacques Higelin?
En fait, moi, mes deux chanteurs, enfin chanteuses françaises, je trouve les plus sensibles, les plus avifs, c'est Gainsbourg et Barbara. Et les deux sont d'origine juive russe. Je trouve ça très drôle que des chanteurs français qui incarnent cet esprit-là soient en fait des juifs russes, parce que ils ont quand même cette espèce de sens du tragique, en fait, mais qui est mélangé à cette espèce de légèreté française, et c'est le choc des deux qui les rend absolument fabuleux, extraordinaires. Et puis Barbara, c'est une telle sensibilité à vif, quoi. Elle est vraiment très très fragile et très forte en même temps. C'est une énergie féminine toujours très inspirante.
Françoise Nyssen, on vous a demandé quel reportage vous aimeriez entendre dans l'émission, et vous avez proposé la maîtrise populaire de l'opéra comique, créée il y a 3 ans, ça y est, vous souriez, créée il y a 3 ans par l'opéra comique à Paris. C'est une formation en horaire aménagé pour des jeunes de 8 à 25 ans qui mêle musique, danse, théâtre, ainsi que des enfants de toutes les origines sociales, ethniques et culturelles. Elle a créé cette maîtrise, un spectacle il y a quelques jours, Compte du temps qui passe, et Jean-Baptiste Urbain était à une représentation avec un public d'élèves venu d'un petit peu partout en banlieue parisienne.
Clara Brenier, je suis prof de chant choral à la maîtrise populaire de l'opéra comique.
Qu'est-ce que vous avez fait là ?
J'ai fait un tout petit échauffement vocal pour que les enfants soient préparés vocalement avant le spectacle.
Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces enfants ?
Alors c'est une maîtrise populaire, donc qui est ouverte vraiment à tous, et en particulier aux enfants qui n'ont pas de bagage musical derrière eux. C'est des enfants qui sont très vifs parce qu'ils savent chanter, danser, faire des claquettes. Ils ont un cursus très complet et c'est vrai qu'ils sont assez impressionnants.
Pousse le stade, ouvre la cage. Allez, ouvre la cage.
Comment tu t'appelles ?
Marie-Victoire, je suis en terminale L. Là, c'est ma deuxième année.
Tu chantais avant ?
Oui, mais je chantais pas du tout d'opéra de comédie musicale. Je chantais dans ma douche, sous ma douche plutôt. Tous les matins, on a la maîtrise quand on est au lycée. Et tous les après-midi, on est au lycée en cours normaux.
Ça consiste en quoi, une matinée de cours ?
Bah, par exemple, le matin, on peut avoir chant choral à 8h30. Puis, l'heure après, on peut avoir 2 heures de théâtre. Là, on fait des improvisations, on travaille des textes, on travaille notre posture, notre présence, voilà. On peut aussi, par exemple, avoir danse, 1h30, où là, on apprend des chorégraphies pour les concerts ou pour les spectacles, où on fait de la détente, des choses comme ça. Ça nous aide à grandir, entre guillemets. On acquiert de la maturité parce qu'on prend des responsabilités. Même quand on est petit, les petits sixièmes, ils connaissent toutes les chansons par cœur, etc. Donc, ils sont déjà super matures, voilà.
Je m'appelle Malcolm Namgyal, j'ai 12 ans et je suis un élève de 5e et c'est ma deuxième année au sein de la maîtrise.
Depuis 2 ans, tu te sens changé, t'as appris beaucoup de choses ?
Dans la vie de tous les jours, je me sens plus à l'aise, je suis moins timide parce que être sur scène, ça change parce que on est devant, on est exposé au public et à ce qu'ils pensent de nous, et forcément dans la vie de tous les jours, ça aide. Je me suis fait des amis parce qu'on partage la même passion. Forcément, on a des semaines de répétition entières ensemble. Donc ça rapproche et on se fait des amis, voire des meilleurs amis.
T'aimerais en faire ton métier ?
À vrai dire, je sais pas trop, mais j'aime beaucoup faire ça. Alors si je peux faire mon métier en m'amusant, ce serait vraiment super.
Génial. Ah, la fin, c'était très génial. Quand ils ont fait les claquettes, ils tapent les pieds avec les chaussures comme ça. Ah, ça m'a très plu.
Mais comment on va faire pour un... Est-ce qu'on peut s'inscrire aussi ?
Je suis Sarah Conné, je suis la directrice artistique de la maîtrise populaire de l'opéra comique.
C'est un projet artistique, social, qui a pour but de mettre des enfants au plateau et de créer une école de la scène pour des enfants venus de tous les milieux sociaux, mais aussi de tous les lieux qui peuvent être dans le Grand Paris. Donc c'est des enfants qui se rencontrent au plateau et qui n'auraient peut-être pas fait connaissance dans d'autres circonstances.
Ils peuvent même se retrouver sur scène au Festival d'Avignon.
Oui, c'est vrai, ils se sont retrouvés sur scène pour faire l'ouverture du Festival d'Avignon l'été dernier, avec Thiès de Thomas Jolie. Aventure incroyable. L'idée maîtresse, c'est d'être partenaire de l'école. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été important. Mais je dirais que l'idée que j'ai en tête toujours et dont je ne parle jamais aux enfants, c'est de me dire qu'avec ce projet-là, peut-être on va renouveler d'ici 10 ans les têtes et les visages au plateau dans les grandes salles.
Vous connaissiez la maîtrise populaire de l'opéra comique, Arthur Ashe ?
Non, je ne connaissais pas, mais je trouve ça merveilleux.
Qu'est-ce qui est merveilleux ?
Eh ben, le fait que les enfants puissent s'exprimer et que leur âme joyeuse puisse s'exprimer, puisse chanter, puisse danser. Je pense pas qu'il a besoin d'en faire son métier, forcément, parce que être artiste, c'est une passion, c'est une obsession, c'est aussi une autodestruction aussi de soi, une consommation, quoi. Mais, donc tout le monde n'est pas obligé de passer par là. Mais, par contre, s'exprimer artistiquement comme ça, qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de plus joyeux et de plus fort, quoi. C'est fabuleux.
On entendait différents accents et ça vous faisait plaisir, Françoise Nyssen.
Ah oui, mais moi, je me souviens toujours du témoignage, et là, c'est le théâtre du petit Mohamed à Avignon, pendant le Festival d'Avignon, à 11 ans, qui disait, pour moi, faire du théâtre pendant l'année, ça me donne confiance en moi, et surtout, ça m'apprend à connaître l'autre. Et il disait, il ajoutait, peut-être que ce serait la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, mais c'est extraordinaire ce que ça donne. Je me souviendrai toujours, pour lancer le plan mercredi, on va dans un collège de Courcouronnes avec Jean-Michel Blanquer, et là, c'était une classe de la diversité, mais que de la diversité, je dirais, d'une certaine façon. Et voilà des jeunes, des enfants, qui sans doute n'étaient pas au départ des musiciens destinés, je dirais, avec le violoncelle, avec l'alto, avec le violon, avec la clarinette, et qui jouent et qui chantent l'hymne à la joie. Mais on était en pleurs, c'est chaque fois que j'assistais à cela, c'est une émotion, et on voit des enfants qui sont heureux et qui témoignent sur ce que ça leur fait.
Mais la France est encore loin du compte en termes de pratique artistique à l'école.
Elle est très loin du compte et c'est pour ça que c'était un sujet majeur. Et donc,
est-ce que ça veut dire que vous avez échoué là-dessus ?
Ah non, pas du tout, parce qu'on a cranté, comme on dit dans le langage. Et je suis partie après une conférence de presse où on annonçait 2 heures de pratique chaque semaine à tous les niveaux avec des artistes et on travaille là-dessus. Et donc j'espère bien que mon successeur continuera là-dessus. J'ai lancé quelque chose qui m'a tenu très à cœur parce que l'école c'est à partir de 3 ans. Mais dès qu'on est, on est être de culture et sensible. Et c'est l'éveil au sensible dès le plus jeune âge. Et j'ai confié à Sophie Marinopoulos une mission là-dessus qu'elle a remis et j'espère que le ministre s'en emparera parce que l'éveil au sensible, il est fondamental. Elle a développé une notion qui est très importante qui est la notion de santé culturelle.
On va écouter, si vous le voulez bien, le groupe formé par Damon Albarn. Vous le connaissez, Arthur Ashe.
Bien sûr, bien sûr.
Il s'appelle, ce groupe
The Bad Queens.
Essayez encore. The Good.
The Good and the Bad.
Non. The Good, the Bad, the
Queen.
Oui, The Good, the Bad, the Queen.
Still say goodbye, and if you are leaving, can you leave me my silver jubilee, my old flag, my dark woods, my sunrise? If you're leaving, can you please say goodbye, and if you are leaving.
clowns as they roll into town, but their faces look tired and sad to me, and carry the terrible things they've seen all lost in a painting of a sky colored oil. In this merry land, you are my crows, my window rattlers, perfume valley criers, over dark ponds of merry England, the deep space echoes. Get on your mo. What did you say, mobility?
Grand Atelier, Vincent Josse sur France Inter.
Dans votre livre, Françoise Nyssen, Plaisir et nécessité chez Stock, vous rappelez que la démocratie et l'écologie, c'est ce qu'il y a de plus important dans votre vie. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable. Pourquoi vous êtes derrière LREM et pas derrière Europe Écologie Les Verts ?
Mais je ne suis pas derrière quelque chose.
Bah, vous
je
êtes macroniste.
Mais je suis en avant. Je suis Françoise.
Vous êtes en marche.
Je suis Françoise Nyssen avec des amis qui portons une volonté de fraternité. Là,
oui,
on
mais là,
sort.
Vous bottez en touche.
Mais non, parce que je ne suis pas derrière LREM, je ne suis pas derrière Europe Écologie Les Verts.
Et pourquoi, pourquoi pas eux ?
Mais parce que je ne fais pas partie d'un parti, quel qu'il soit. J'ai toujours eu des engagements en dehors de parti, dans les luttes urbaines à Bruxelles, pour l'écologie en soutenant Colibri, en diffusant à travers des livres des idées et des possibilités de faire essentiel. Enfin, c'est vrai que quand on publie Le pouvoir de faire de Patrick Bouchain, ou quand on publie Demain, ou quand on publie La fraternité d'Edgar Morin, ou Vivre avec la Terre, eh bien, on agit. Et au contraire, je suis avec et derrière et pour ces artistes qui sont les êtres sensibles du monde et qui nous disent, et c'est
parce
là
que
où je veux être.
Votre voisine Perrine Hervé-Gruyer s'est engagée à un moment, et beaucoup même en politique. Vous avez été, vous, Europe Écologie Les Verts, conseillère régionale 2010-2015.
J'étais conseillère régionale, voilà, lors de la dernière mandature. Mais pour moi, ce que dit François, c'est tout à fait cohérent. C'est-à-dire que je n'ai pas rejoint un mouvement, un parti, j'ai rejoint une cause. À l'époque, on est venu me chercher pour ce que je représentais, c'est-à-dire la ferme du Bec-et-Loin, pour mes réalisations. Hein, c'était Europe Écologie Les Verts qui s'ouvrait à la société civile, comme il le disait. En politique, les gens qui font, qui réalisent, c'est pas commun. Et on n'a pas la même façon de parler, surtout quand on est femme. On s'exprime pas de la même façon. On n'a pas ce même verbiage politico-politique et on est concrète. Nous sommes des femmes de terrain, nous sommes des réalisatrices avant d'être des femmes.
Est-ce que vous
politiques.
Êtes entendues, vous, les femmes? Françoise Nyssen en doute dans son livre. Elle se demande si les critiques qu'elle a reçues, et il en a plu un certain nombre pendant ces 17 mois, ce n'est pas parce qu'elle était aussi une femme.
Il y a encore cette problématique en France par rapport aux femmes. Moi, quand j'étais élue, j'ai pas eu de problème de ce genre parce que dans toutes les instances où j'ai pu représenter la région, je me suis retrouvée avec des agriculteurs et on parlait de technique. Et c'est la technique qui nous a conciliés, réconciliés. Et puis en plus, je me laissais pas faire, j'avais mon mot à dire. Et c'est passé systématiquement. Mais dès lors qu'on va rester sur ce mode politico-politique avec des grandes idées, puis derrière, on ne fait pas,
c'est pas notre monde et c'est pas notre façon d'opérer, nous, les femmes. Je pense que on a un pouvoir, une puissance qui est très différente de celle des hommes.
Vous doutez plus, vous, de la possibilité pour une femme en politique de s'affirmer ou d'être entendue, Françoise Nyssen, hein, dans ce livre?
D'une certaine façon, on m'a cerné sur une image de moi qui n'est pas ce que je ressens de moi. Ça, je suis très affirmative là-dessus.
Quelle image a-t-on donné de vous qui n'est pas vous?
Quelqu'un qui hésitait, qui ne savait pas. On a même, par exemple, dit des choses mais hallucinantes, que je ne travaillais pas mes dossiers, mais je n'ai jamais autant travaillé de ma vie que ces 17 mois au gouvernement où je n'ai pas arrêté. C'est vrai que je n'avais pas le même langage. J'ai appris et j'ai pas arrêté d'apprendre et j'ai adoré apprendre. Et j'ai adoré côtoyer tout ce monde et j'ai adoré essayer de faire. Et je considère qu'il y a beaucoup de dossiers sur lesquels j'ai fait avancer, j'ai fait bouger les lignes. Je reçois tous les jours des témoignages qui disent... Je le dis, tant pis qu'il me regrette et que j'ai changé quelque chose dans l'état d'esprit. Je n'ai pas été entendue. Pourquoi? Pour des tas de raisons, je n'arriverai pas à comprendre et ça n'a pas d'importance.
Qu'est-ce que vous avez mal fait?
Certainement de ne pas prendre conscience de cela, qu'il y avait ce risque-là. J'étais tellement portée. Je n'ai pas demandé à être ministre. Emmanuel Macron m'a téléphoné et m'a demandé. J'ai refusé. J'ai même refusé au prétexte qu'il n'y avait pas assez d'écologie. Il m'a dit que je ne serais pas déçue. Et effectivement, en me présentant au Premier ministre, j'ai rencontré Nicolas Hulot et donc j'ai basculé. Moi, je trouvais qu'il pouvait garder, par exemple, l'ancienne ministre qui était très bien. Mais à partir du moment où je me suis dit... Il y a quelque chose à faire, je vais le faire, et en responsabilité, je me suis préoccupée de ça, je ne me suis pas rendu compte effectivement qu'il fallait accompagner ça d'une communication forcenée, qu'il fallait avoir un discours très tendu et très autoritaire qui ne laissait pas la place à la brèche de la réflexion et à l'intensité du doute. En France, les choses sont assez binaires. Et on a l'impression que personne n'est habité par quelque chose, moi, qui m'a habité le jour où je l'ai eu en cours, qui est le principe d'indétermination d'Heisenberg, qui est quelque chose qui, philosophiquement, m'a toujours fondée. On n'a pas de certitude. Alors pourquoi, en politique, on doit asséner des certitudes en permanence? Il y a quelque chose là que je ne comprends pas.
Arthur H., vous chantez, vous écrivez, vous êtes auteur, compositeur, interprète. On a compris et entendu votre lien aussi au public. Et puis, depuis peu, vous êtes aussi écrivain. Vous avez sorti un livre au Mercure de France, Fugue, dans lequel vous vous racontez en exprimant différentes fugues. La vôtre, quand vous étiez adolescent, avec votre père, Jacques Higelin, une fugue de votre mère, et puis aussi une fugue de Jean-Sébastien Bach, en plus de son art de la fugue. Ce texte publié, Françoise Nyssen, chez une concurrente, Mercure de France, Colette Fellous, qui dirige cette collection, vous a-t-il touché et pourquoi?
D'abord, je ne dirais pas concurrente. Quelqu'un qui fait le même métier.
Là, vous parlez en politique.
Non, je parle en conviction. Et donc, il y a de la place pour tout le monde et coopérons. Et justement, ouais. Ce texte est un texte qui est plein de, je dirais, de résonance par rapport à ce que nous sommes l'un et l'autre. La notion de fugue au sens réel, la problématique de la relation aux autres, hein, puisque à un moment donné, on s'en va, et puis on reproduit cette histoire, comment tout cela se rejoue. Et puis, l'histoire de la fugue et de Jean-Sébastien Bach, qui est quelqu'un qui nous nourrit manifestement l'un et l'autre, et donc c'est une complicité de plus que j'ai trouvée avec Arthur, que je découvre petit à petit, parce que toute la vie elle est faite comme ça, on n'arrête pas, les choses ne sont pas arrêtées à un moment donné, mais elles continuent en permanence. Et d'ailleurs, si vous m'autorisez, j'aimerais bien lire un petit poème.
C'est votre émission.
De tout, il restera trois choses. La certitude que tout était en train de commencer. La certitude qu'il fallait continuer. La certitude que cela serait interrompu avant que d'être terminé. Faire de l'interruption un nouveau chemin. Faire de la chute un pas de danse. Faire de la peur un escalier. Du rêve un pont. De la recherche une rencontre.
C'est presque une chanson.
C'est presque une chanson, c'est très rythmique et ça pourrait tout à fait être mis en chanson. Ouais.
On vous entendait chanter tout à l'heure dans Il, Elle, Sois toi-même. Arthur, il devient lui-même quand il fugue à son tour?
Oui, là, c'était en l'occurrence aussi, j'ai aussi, de manière littéraire, essayé de raconter ce qui se passe dans la tête d'un adolescent quand il prend des drogues hallucinogènes pour la première fois, malgré lui, parce qu'on lui donne ce qui m'est arrivé.
Dans un gâteau.
Donc, comment le réel se transforme, comment la conscience s'ouvre ou pas, comment on accède à d'autres modes de sensation et à quel point c'est perturbant.
Racontez cette scène où vous dites à votre père, Jacques, donc sous l'effet de ces champignons, vous lui dites une phrase mais énorme, essentielle.
Oui, j'étais derrière lui, donc on avait pris des... Enfin, il m'avait fait prendre des champignons hallucinogènes à 15 ans, qui était quand même une espèce... Donc on part dans cette espèce de jungle, de grand jardin, qui pour nous, du coup, était totalement démesuré, était du coup vraiment un vrai jardin d'Éden. Parce que quand on prend ce genre de substance, on voit tout le monde vibrer et respirer, donc on voyait des arbres vibrer, on était dans un monde vivant et symbolique. Et je marchais derrière lui, et tout d'un coup, l'image m'est apparue, mais sans y réfléchir, de manière très forte, que si je marche derrière toi, je ne pourrais jamais être moi-même. Parce que mon père avait une personnalité tellement forte, donc je lui ai demandé de me laisser seul, ce qu'il a très gentiment fait. Il m'a laissé au milieu du jardin, et c'était un premier pas symbolique d'une existence nouvelle pour un adolescent qui, tout d'un coup, doit explorer le monde par lui-même, sans référence.
Dans l'histoire des pères, qui peut peser parfois sur un être et un jeune être, il y a la famille Nyssen, le père fondateur des éditions Actes Sud, qui quitte Bruxelles pour la France, qui est un homme d'aventure, et sa fille, ici présente, Françoise, le rejoint quand elle a une trentaine d'années, elle quitte Paris et elle trouve son épanouissement à ses côtés, aux côtés de son équipe. C'est pas toujours simple. Je voudrais qu'on l'écoute, si vous le voulez bien, Hubert Nyssen.
Très très tôt, j'ai reçu, ça devait être 2 ans après la création de l'entreprise, j'ai reçu un coup de fil de ma fille qui habitait Paris et qui est biologiste et urbaniste. Et elle m'a dit « j'ai envie de venir travailler avec toi ». Et à partir du moment où elle est entrée, la gestion de l'entreprise est devenue quelque chose de tout à fait sérieux. C'est une biologiste. Pour elle, un fait est un fait. Donc jamais nous n'avons vécu dans le leurre de la prospérité ou des choses qui allaient réussir. J'ai vu tellement de maisons d'édition qui naissaient et qui périssaient très rapidement parce que les gens étaient persuadés qu'ils allaient avoir des résultats formidables et qu'ils allaient pouvoir, grâce à ça, payer tous les frais qu'ils avaient engagés. Nous, on n'a jamais été dans ce cas de figure parce qu'il y avait Françoise. Il est venu un moment où j'avais beaucoup de peine à m'imaginer que je travaillais avec ma fille. Elle est devenue une amie, une associée, une collaboratrice, une directrice. Et au fond, je retrouve ma fille le week-end quand, avec son mari et ses enfants, ils viennent pour leur repas dominical. Jusqu'à un certain point, parce qu'en général, avec le dessert, reparaissent les problèmes d'édition, et puis on abandonne les commérages de type familial, et à nouveau, la fille se transforme en collaboratrice, en associée, et le père, de même, à ses yeux, devient un collaborateur, un associé.
Françoise Nyssen, vous l'écrivez dans Plaisir et Nécessité, ça n'a pas toujours été simple d'être la fille de cet homme brillant, plein d'énergie, mais qui aimait aussi avoir la lumière sur lui.
Si ça n'a pas été simple, c'est parfois par rapport au regard ou ce que me renvoyaient les autres. Parce que nous, on se débrouillait très bien de notre relation. Ça m'amuse parce que là, c'est vrai que la décision de descendre s'est faite quand il est monté, pas par un coup de téléphone. C'était 1 an après la création des éditions. Donc, mon père a toujours eu cette capacité à raconter des histoires et j'aime l'entendre le dire comme cela. C'est les questions qu'on me posait. On me disait même parfois, mais vous êtes là, mais qu'est-ce que vous faites, vous, dans la maison? Ou bien, on me disait, à un moment donné, vous êtes l'héritière. Je déteste cette idée. J'ai travaillé avec Hubert et Christine, qui ont créé ensemble cette maison en 78, fin 78.
Donc votre dès père le début, et votre belle-mère.
Voilà, dès le début des années 79. Et ça a été un travail ensemble. Donc c'est plus l'image qu'on nous renvoyait qui pourrait évoquer l'idée d'un problème. C'est normal, on vit grâce au conflit, on avance grâce aux discussions et ce n'est pas un problème en soi.
On va devoir se quitter après ces 2 heures bouillonnantes. Françoise Nyssen, plus en forme que jamais, c'est son anniversaire, c'est peut-être ça aussi qui la dope. Elle a plein de livres devant elle, Françoise
Joyeux
Nyssen.
Anniversaire, Françoise.
Comment on pourrait chanter Happy Birthday to You d'ailleurs?
Ah non, on n'a pas le droit de chanter ça.
Non.
Qu'est-ce qu'on peut chanter? On peut dire joyeux anniversaire.
Très bien anniversaire. Ouais, il est joyeux avec vous.
Mais j'aurais pas réussi à faire chanter Arthurin, c'est un échec absolu. Vivre avec la terre, c'est une œuvre, un ouvrage de Perrine et Charles Herbé Gruyer, manuel des jardiniers maraîchers. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots de tout ce travail que vous avez fait? Vous l'avez fait pour l'avenir, justement. On entendait un petit jeune homme, Gustave, de 17 ans. C'est entre autres pour lui, ce livre, non?
C'est pour lui, mais c'est pour tous ceux qui ont envie, dès demain, de se mettre les mains dans la terre et de reprendre une espèce d'autonomie, d'être connectés à la nature, de pouvoir produire leur propre nourriture dans le jardin potager familial ou dans une ferme, peu importe. On a essayé de rédiger l'ouvrage qu'il aurait fallu qu'on trouve quand on a commencé. Je sais que Cyril Dion a toujours dit de demain, c'est le film que j'aurais toujours voulu voir au cinéma. Et ben comme il n'existait pas, je l'ai fait. Ben nous, c'est un petit peu pareil. Mmh. En
avec
fait.
Des photos, avec des textes, des dessins.
Des photos, des graphiques, des dessins, des explications. On a mis tout ce qu'on a découvert ces dernières années, on a tout légué et on est ravis que cela puisse servir pour voir un nombre infini de micro-fermes se développer.
Non, c'est pas encore Noël, mais c'est un cadeau qu'on peut se faire. Il y a 3 énormes livres dans ce coffret Vivre avec la Terre et il coûte 79 €, ce qui est certes un coût, mais qui n'est pas non plus un coût exorbitant pour un livre et pour un travail de cette ampleur-là. Françoise Nyssen, je voudrais juste vos derniers mots, qui sont les premiers mots de votre livre Plaisir et nécessité, paru chez Stock, vous voulez bien? Et si on veut lire Arthur H, on lit Fugue au pluriel, au Mercure de France. La lecture est prête, les lunettes sont chaussées. Françoise Nyssen, Plaisir et nécessité, première page.
Depuis mon plus jeune âge, j'ai une passion, les livres. Ils ont accompagné et forgé mon enfance. Ils ont très vite été le fil directeur de ma vie professionnelle. Née belge, la France m'a accueilli et m'a permis d'agir. De la Belgique jusqu'au ministère de la Culture où j'ai passé 17 mois, j'ai traversé des moments heureux, exigeants, durs parfois, mais aussi inespérés. Une vie où à plusieurs reprises j'ai décidé de remettre les compteurs à zéro. Une vie familiale à la fois intense et complexe. Une vie professionnelle où se sont succédés les virages. Je les ai envisagés et choisis. Je me suis engagée, car je crois au pouvoir du dialogue face au cynisme du monde moderne. Je crois à l'entraide citoyenne contre les violences du capitalisme. Je crois à la solidarité dans une société encore inégalitaire envers les femmes. Je suis nourrie par une certitude, l'intelligence est collective.